Europe Midi. Alexandre Lemaire.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1, il est midi et demi.
Il y a trois semaines, on était à 300 cas détectés par semaine. Puis là, on est à 3100 avec une accélération dans les derniers jours qui nous emmène droit dans un mur si on n'est pas capable d'arrêter cette tendance très vite.
La Guadeloupe contrainte de se reconfiner face à l'explosion des cas de Covid. Le préfet décrit une situation catastrophique en Corse. Afflux de patients contaminés dans les hôpitaux. Nous serons également en Allemagne qui s'apprête à proposer une troisième dose de vaccin aux plus vulnérables. Nouvelle médaille pour la France au JO de Tokyo. Du bronze en cyclisme sur piste dans l'épreuve de vitesse par équipe. Un été maussade en France, mais des vagues de chaleur et des incendies hors normes en Europe, dans le pourtour méditerranéen, mais aussi près du cercle polaire. Un an après l'explosion du port de Beyrouth, le Liban sans gouvernement, toujours enlisé dans une reconstruction et une enquête au point mort, Paris espère débloquer une nouvelle aide humanitaire.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Hors de contrôle, l'épidémie de Covid en Guadeloupe contraint le préfet à imiter la Martinique voisine. Dès ce soir, les Guadeloupéens seront reconfinés pour au moins 3 semaines. Seule solution pour faire face à une situation que le préfet décrit comme catastrophique, Caroline Baudry.
Oui, catastrophique, c'est le terme employé par les autorités sanitaires locales. Avec 828 cas pour 100 000 habitants, c'est presque 4 fois plus que la moyenne nationale. En Guadeloupe, ces cas ont été multipliés par 10 en 3 semaines. C'est ce qu'a précisé hier Alexandre Rochat, le préfet du département.
Il y a 3 semaines, on était à 300 cas détectés par semaine. La semaine dernière, on était à 1000. Et puis là, on est à 3100 a priori constatés. Avec une accélération dans les derniers jours, ça nous emmène droit dans un mur. Si on garde la même pente, on serait à 6000 cas la semaine prochaine. Donc, vous imaginez ce que ça veut dire pour un territoire comme la Guadeloupe d'avoir 6000 cas positifs par semaine à traiter avec évidemment une proportion de gens qui seraient traités à l'hôpital ou en réanimation.
Les autorités ont ajouté qu'aucun des 22 patients actuellement en réanimation n'était vacciné. Là-bas, seuls 16% de la population a reçu les 2 doses, pas assez pour freiner la circulation du virus. Le couvre-feu est donc avancé à 20h. En journée, circuler dans un rayon de 10 km sera soumis à des restrictions. Au-delà, il faudra même remplir une attestation et justifier d'un motif impérieux. Installer à la plage sera interdit, les gymnases, stades, piscines vont fermer, les restaurateurs doivent aussi baisser le rideau, comme Jocelyn qui vit à Basse-Terre.
Là, franchement, on s'y attendait pas du tout. Hein. Si ça continue comme ça, on risque de fermer, hein, parce que ça confine, la poussée est déconfinée, et puis en fin de compte, on sait plus quoi faire. Bon, heureusement qu'on a un peu de touristes qui viennent, mais est-ce que ça continue comme ça, est-ce qu'ils viendront? Je ne pense pas.
Les conditions d'arrivée en Guadeloupe depuis la métropole ont été durcies hier. Le passager doit être complètement vacciné ou justifié d'un motif impérieux.
La Corse est pour sa part confrontée à une augmentation préoccupante des cas de Covid. Malgré les mesures de freinage en vigueur, en 3 jours, le nombre d'hospitalisations a bondi de 30%. La situation est particulièrement tendue à l'hôpital de Bastia. Les soignants doivent faire face à un afflux soudain de patients contaminés, Claire Leys.
En moyenne, 9 personnes positives sont hospitalisées chaque jour. Il reste moins de 5 lits Covid à l'hôpital de Bastia. Et selon Sophie, soignante au pôle chirurgie, le pire reste à venir.
C'est de plus en plus tendu. Les soignants sont de plus en plus épuisés. Là, maintenant, on fait appel aux heures supplémentaires sur une période de congé très attendue par l'ensemble du personnel. On vit carrément au jour le jour, hein, en fonction de ce qui nous tombe dessus.
Sans compter qu'avec l'afflux de touristes, le travail s'intensifie également aux urgences. La situation devient intenable, selon Sophie. Certains soignants sont même tentés de rendre la blouse.
Moi, la première. Pourtant, ça fait 26 ans que je suis soignante. Je commence à me poser la question. C'est horrible, cette situation.
Cette nouvelle crise ravive les souvenirs de la première vague. Les leçons n'ont pas été retenues, selon Séverine Mazon, co-secrétaire CGT à l'hôpital de Bastia.
En faisant des lits de patients Covid, on est obligé de réduire le capacitaire des autres spécialités. Donc, nous sommes très tendus en termes de lits, mais c'est un problème qui était déjà connu avant le Covid et qui continue avec cette crise sanitaire, tout simplement.
Consciente de l'urgence, l'ARS de la Corse et la préfecture doivent annoncer de nouvelles mesures sanitaires dans la journée.
Et au même moment, l'Allemagne, elle, se prépare déjà à distribuer une troisième dose de vaccin à sa population. Ce rappel vaccinal sera proposé à partir de septembre pour les plus vulnérables. Les personnes à risque, les personnes âgées, notamment dans les EHPAD, ont représenté 1 mort sur 2 outre-Rhin. Les détails de notre correspondante à Berlin, Hélène Kohl.
Berlin explique vouloir anticiper l'automne, car on sait que la protection immunitaire peut baisser rapidement 6 mois après la seconde dose. Dans une optique de prévention, les personnes âgées et surtout celles qui résident en EHPAD, qui ont été vaccinées en tout premier en janvier et février, se verront donc proposer un rappel à partir du début du mois de septembre. Ce sera uniquement avec un vaccin à ARN messager, donc soit BioNTech, Pfizer, soit Moderna. Il y aura aussi une troisième dose pour tous ceux qui ont été vaccinés avec AstraZeneca ou Johnson & Johnson, quel que soit leur âge. En Allemagne, 62% de la population a déjà eu au moins une injection, mais le rythme de vaccination a fortement ralenti en juillet. En prévision de la rentrée, les 12-17 ans sont aussi désormais officiellement appelés à se faire vacciner. Jusqu'à présent, les autorités sanitaires ne recommandaient la vaccination que pour les adolescents à risque. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
Hélène Kohl, la correspondante d'Europe 1 à Berlin, en Chine. La ville de Wuhan, premier épicentre identifié de la pandémie, va à nouveau dépister ses habitants alors que le virus y refait son apparition. Plusieurs cas ont été confirmés. Les précédents cas remontaient, eux, à mai 2020.
Europe 1, Alexandre Lemaire.
Une nouvelle médaille pour la France aux Jeux Olympiques de Tokyo. Elle est en bronze et c'est le cyclisme sur piste qui la porte, Corinne Boulou.
Oui, les pistards apportent une 24e médaille à la délégation française à Tokyo. Florian Gringbeau, Sébastien Viguier et Ryan Ellal ont remporté en milieu de matinée face aux Australiens le match pour la 3e place dans l'épreuve de vitesse par équipe. Du bronze comme aux Jeux de Rio en 2016 et c'est surtout la première médaille pour le cyclisme français à Tokyo.
Ouais, la sensation de la nuit, elle est venue du stade olympique avec un record du monde phénoménal sur 400 mètres haies.
Oui, un record et un premier titre olympique pour le jeune Norvégien Carsten Warholm. À 25 ans, le double champion du monde a signé sans doute la plus belle course de l'histoire des Jeux dans un chrono stratosphérique de 45 secondes et 94 centièmes. Warholm est ainsi devenu cette nuit le premier à franchir la barre mythique des 46 secondes, améliorant son propre record du monde de 76 centièmes. Notre consultant olympique Jean-Claude Perrin salue l'exploit historique de Carsten Warholm.
Battre le record du monde en finale olympique, c'est toujours un défi. Et ce qu'il a réalisé, c'est monumental. Sa vitesse de base sur 400 qui est très forte, qui est très grande, et surtout par rapport à nombreux coureurs, une adaptation spécifique aux barrières. Il faut, à rythme identique, tous les 35 mètres, passer une haie de 91 cm. Donc avoir une course rythmée, millimétrée, de façon à ce qu'il n'y ait pas de rupture dans la vitesse, ça, il l'a parfaitement adapté. Et ce qu'il a réalisé, je pense que ça va rester peut-être 20 ou 30 ans.
Eh bien justement, sachez que le dernier record du monde du 400 est battu au JO daté de Barcelone en 92. C'était l'Américain Kevin Young, il y a 29 ans.
Et on termine, Corinne, par les résultats de la matinée à retenir côté français et les finales à venir.
Oui, cap sur les demi-finales pour les basketteurs français qui viennent d'éliminer l'Italie 84 à 75, leur première demi-finale olympique depuis les Jeux de Sydney en 2000. Et ce sera jeudi face à la Slovénie. Les handballeurs français, vainqueurs de Bahreïn, 42 à 28, sont également qualifiés pour les demi-finales. Ce sera face à l'Allemagne ou l'Égypte. Quant au volley tricolore, il tentera d'accéder aux demi-finales en début d'après-midi face au double champion du monde polonais. En athlétisme encore, la finale de saut à la perche vient de débuter avec Renaud Lavillenie et le détenteur du record du monde, le Suédois Mondo Duplantis. Alexandra Tavernier visera elle un podium en finale du marteau.
Corinne Boulou du service des sports d'Europe 1. À 13h, bien sûr, votre rendez-vous quotidien avec les JO Club Tokyo avec Lionel Rousseau. Des milliers d'hectares dévorés par les flammes des villages évacués, des touristes pressés de fuir leur lieu de vacances. De la Grèce jusqu'au nord de la Finlande, l'Europe est en proie à de violents incendies cet été. Le phénomène prend de l'ampleur et touche maintenant des pays jusqu'ici préservés, Damien Maistre.
Plus de 800 interventions en une seule journée, c'est ce qu'ont dû réaliser ce week-end les pompiers dans le sud de l'Italie. Des incendies qui frappent également l'Espagne ou bien encore la Grèce. Près de la ville de Patras, une vingtaine de maisons a brûlé, des flammes parfois proches de stations balnéaires très touristiques, comme sur l'île de Rhodes où Maud et sa famille sont en vacances.
On a vu un gros nuage de fumée d'un seul coup. L'eau et l'électricité ont été coupées dans tout l'hôtel. Il fait très très chaud. Pour avoir beaucoup voyagé, c'est la première fois qu'on a des chaleurs aussi insupportables.
Mais c'est en Turquie que la situation est la plus dramatique. Déjà 8 morts dans le sud du pays. Plus de 1000 personnes évacuées par bateau. Les habitants appellent à l'aide sur les réseaux sociaux. Cette femme filme les flammes à quelques mètres de sa maison. Sur cette autre vidéo, on voit des habitants tenter désespérément de combattre l'incendie. Armé d'un simple tuyau d'arrosage, le feu est en train de dévorer un champ d'oliviers. Des scènes impressionnantes partout en Europe et même jusqu'en Finlande. 300 hectares ont brûlé à 500 km au nord d'Helsinki. C'est le plus grand feu de forêt depuis 50 ans dans ce pays, aux frontières du cercle polaire.
À Argenteuil, dans le Val-d'Oise, une adolescente de 11 ans, entre la vie et la mort, après avoir été fauchée avec sa mère par une voiture qui visait délibérément un autre piéton. L'automobiliste avait pris la fuite. Marion Dubreuil, il s'est finalement rendu hier soir.
Oui, la police l'avait identifié grâce à des débris de sa voiture ainsi que les images de vidéosurveillance. Il s'agit d'un jeune homme de 25 ans, déjà connu de la justice. Les enquêteurs de la Sûreté départementale du Val-d'Oise avaient retrouvé sa voiture hier, abandonnée à Sartrouville, une commune voisine d'Argenteuil. Acculé, le suspect s'est donc rendu hier soir au commissariat où il a immédiatement été placé en garde à vue. D'après nos informations, il explique pour le moment qu'il s'est endormi au volant au moment de l'accident. Une version qui ne colle pas vraiment avec les auditions des témoins qui ont expliqué qu'il avait accéléré pour monter sur le trottoir avant de percuter cette adolescente de 11 ans et sa mère au niveau d'un abribus. Aucun lien n'a été établi entre le suspect et les deux victimes. En revanche, une troisième personne se trouvait au niveau de l'arrêt de bus dimanche soir. Il s'agit d'un adolescent de 15 ans qui aurait pu être la cible de l'automobiliste.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. Un an après l'explosion du port de Beyrouth, le Liban reste exsangue. Le pays n'a pas de gouvernement. En termes de reconstruction, tout reste à faire ou presque. La France accueille demain une conférence. Paris espère réunir 300 millions d'euros d'aide humanitaire. On a tous en tête les images des explosions. Plus de 200 morts, des milliers de blessés. Europe 1 était sur place il y a un an. L'un de nos reportages vous avait conduit à l'hôpital des Sœurs du Rosaire, dans le cœur de Beyrouth.
Les urgences sont complètement dévastées, les laboratoires n'existent plus, imagerie médicale, on a beaucoup de machines qui sont cassées. Les salles d'opération, on a une salle qui a été complètement détruite, on a deux salles qui sont à moitié détruites. Il nous faudra au moins 3-4 mois pour pouvoir redémarrer lentement, en pensant après à faire une phase 2 et phase 3 pour revenir à la normale, espérant d'ici un an.
Nicolas Feldman, vous étiez à Beyrouth pour Europe 1. Revenir à la normale d'ici un an, c'est ce qu'espérait cet ingénieur de l'hôpital dans votre reportage. Où est-ce qu'on en est un an après ?
Eh bien écoutez, les urgences et la maternité ont été rénovées, le service de chimiothérapie remis à neuf, mais c'est à peu près tout car pour le reste, eh bien l'hôpital des Sœurs du Rosaire est encore en reconstruction. Il ne fonctionne qu'à 30% de ses capacités. Eliane Mhaouej est la responsable de la qualité et de la gestion des risques à l'hôpital et depuis un an, elle est à la tête de ce qui a été baptisé au lendemain de l'explosion, le comité du désastre.
On avait 200 lits. Actuellement, on peut admettre jusqu'à 40 patients. L'hôpital peut accueillir les patients aux urgences. Il peut accueillir aussi des patients de petite chirurgie qui ne nécessitent pas des soins intensifs, comme étant que les soins intensifs ne sont pas fonctionnels jusqu'à présent. Avec la présence de donateurs, on a pu surmonter parce que sans leur aide, on ne pourrait rien faire, vu que l'État libanais ne nous a rien donné.
Et pour se remettre sur pied, donc, l'hôpital a dû compter sur l'aide internationale, car ces derniers mois, l'État libanais a continué son effondrement, incapable de financer la reconstruction, d'assurer l'accès aux biens de première nécessité. Prenez par exemple l'électricité publique. Elle ne fonctionne à Beyrouth que 2 heures par jour. Résultat, eh bien, l'hôpital des Sœurs du Rosaire tourne aujourd'hui grâce à des générateurs à essence. Pour les soins du quotidien, les médecins font face à une pénurie de médicaments. Là aussi, ils font donc appel à des donneurs privés. Une situation intenable qui pousse de nombreux professionnels à déserter le pays. Depuis 2019, plus d'un millier de médecins ont quitté le Liban. Cela représente 20% des effectifs.
Airbnb, condamné en France à 300 000 euros d'amende pour défaut d'information du consommateur. La répression des fraudes épingle la plateforme de location touristique pour ne pas avoir informé suffisamment sa clientèle, en particulier sur son droit de rétractation. Il faut sauver le Genépi. C'est en ce moment la pleine saison de la cueillette pour cette plante qui pousse sur les sommets des Alpes et qui termine la plupart du temps, vous le savez, en bouteille et en liqueur. Or, en Savoie, un arrêté préfectoral limite la cueillette du Genépi. Les promeneurs sont limités à une récolte de 120 brins par jour et par personne, Diane Berger, car la plante se fait de plus en plus rare.
Traditionnellement, on va au Genépi comme on va à la messe. C'est ce qu'avait expliqué un jour un Savoyard à Marie-Claude Delahaye. Fine connaisseuse du sujet, cette spécialiste a écrit tout un livre dédié à cette liqueur.
C'est-à-dire que, voilà, on y va de façon respectueuse, parce que le Genépi Il faut lui laisser quand même la capacité de se renouveler, sinon ça sera une plante qui sera perdue.
Et c'est bien ce qui inquiète les autorités. Difficile de quantifier précisément le phénomène, explique Laurence Tivelle, la chef du service environnement de la direction départementale des territoires de Savoie. Mais avec d'autres plantes de haute montagne, le genépi est menacé.
On avait depuis quelques années des signalements de destruction de gens qui pillaient un peu un secteur, donc qui ramassaient de manière un peu abusive. L'idée, c'était vraiment d'avoir une réglementation qui permette quand même de se faire plaisir et puis en même temps de tenir compte de la fragilité des espèces.
Et pour les contrevenants qui seraient pris avec plus de brins qu'autorisés, l'amende est plus amère que le genépi. Elle peut monter jusqu'à 750 euros.
Forcément, c'est tout de suite plus dur à avaler. La tendance météo de ce mardi 3 août. Valérie Darmon, dites-moi que je rêve. On retrouve un peu de soleil sur la moitié nord?
Ben oui, hein, on a le droit de rêver quand même. Un temps un petit peu plus calme, un petit peu plus sec, un petit peu plus ensoleillé. Vous avez remarqué que je dis beaucoup un petit peu plus.
Juste un peu
seulement
plus.
Seulement un petit peu. Entre Lille et Châteauroux, pas tout à fait encore sur la façade est. Hein. Toujours orageux cet après-midi, même si c'est un peu moins que ce matin. Sur la Méditerranée, malgré un soleil bien voilé par moments, l'atmosphère est estivale. Et sur tout le reste de la France, la journée qui reste maussade, très nuageuse et passagèrement pluvieuse, pluie ou ondées qui sont tout de même plus rares sur le sud de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées, où quelques rayons de soleil apparaissent seulement aujourd'hui. Demain, ce sera terminé, mais on aura le temps d'en reparler, avec des températures qui ne grimpent pas, toujours entre 19 à Brest et 29 à Toulon.
Merci Valérie, on vous retrouve à 13h pour un point complet.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Alexandre Lemaire.
Le prix des fruits et légumes a baissé en moyenne entre l'année dernière et cette saison estivale. C'est ce que relève, c'est ce que conclut la dernière étude de Famille Rurale. Ce n'est pas un motif de satisfaction toutefois pour l'association qui relève que trop peu de familles modestes consomment suffisamment de fruits et légumes. Mon invité dans Europe Midi, Dominique Marmier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de Famille Rurale. Dominique Marnier, les familles précaires ne mangent pas assez de fruits et légumes, dites-vous. Vous demandez donc, pour régler le problème, la création d'un chèque fruits et légumes. L'idée, c'est d'encourager une alimentation plus saine.
Voilà, malheureusement, ouais, c'est ce qu'on constate depuis quelques années déjà. Ouais. Les familles les plus modestes, à bas revenus, ont malheureusement des difficultés donc à s'alimenter correctement, notamment à travers la consommation des fruits et des légumes. Vous savez que l'OMS, l'Office mondial de la santé, recommande pour le bien et la santé de chacun de consommer environ 400 grammes de fruits et des légumes frais par jour. Et malheureusement, donc c'est un budget quand même, malgré la baisse des prix de cette année, ça reste un budget quand même tout à fait significatif dans le porte-monnaie des ménages, hein, parce que pour une famille de 4 personnes, ça peut représenter de 100 euros si on achète les fruits et les légumes les moins chers, mais jusqu'à 200 euros par mois pour une famille de 4 personnes. Donc c'est conséquent. Malheureusement, toutes les familles n'ont pas accès. C'est pour ça que nous demandons donc la création d'un chèque fruits et légumes qui permette à tout un chacun de s'alimenter correctement quand on sait l'impact que ça a sur la santé de chacun.
Oui, très concrètement, comment voyez-vous le fonctionnement de ce chèque? Quel serait son montant d'abord?
Le montant, tout reste à définir, bien évidemment, mais on pourrait imaginer un système comme l'allocation logement ou l'APL pour le logement. Dans notre société, on part du principe que chacun doit avoir accès à un logement décent, donc on l'aide à financer ce logement. On pourrait le faire de la même manière pour rendre accessible justement la consommation de fruits et des légumes. Donc c'est un chèque qui pourrait être sur une carte et qui permet dans toute surface de vente différente en France de pouvoir acheter uniquement des fruits et des légumes, de permettre vraiment de... Il y a deux choses déjà là-dedans, c'est sensibiliser les familles sur l'intérêt de consommer des fruits et des légumes pour vraiment connaître l'impact que ça a sur la santé de chacun, d'inviter aussi les familles à recuisiner des légumes comme il se doit pour ne pas uniquement consommer des plats préparés, et puis bien sûr les aider financièrement à accéder justement à ces fruits et ces légumes qui restent quand même chers dans le porte-monnaie des ménages.
Alors financièrement, précisément, pour revenir à ce chèque, hein, Dominique Marmier, qui financerait?
Eh bien, c'est la société, c'est l'État, hein, c'est les pouvoirs publics. Donc, c'est pour ça qu'on adresse un message donc, aux pouvoirs publics, au gouvernement, à dire ben, prenez conscience parce que c'est un investissement que la société aurait sur la santé de chacun. Vous savez, dans notre pays, 50% des adultes sont en situation de surpoids. 17% des enfants également. Mmh. On sait que les conditions de surpoids nous amènent tôt ou tard vers l'obésité, qui après amène des problèmes de diabète, de problèmes cardiovasculaires. Et c'est des coûts de santé qui sont, bien sûr, outre le fait, le côté moral qu'on ne peut pas accepter pour la santé de chacun, c'est aussi des coûts fantastiques. Donc, c'est un investissement sur la société, à dire on prévient, on informe les familles, l'ensemble de notre société sur les bienfaits de consommer des fruits et des légumes, et on aide les familles les plus en difficulté pour qu'elles puissent avoir accès à cette alimentation de qualité.
À quel public ce chèque serait-il destiné ? Vous l'imaginez conditionné à un certain plafond de ressources, par exemple ?
Ben voilà, exactement comme on le fait d'ailleurs pour le chèque énergie. Hein. Le chèque énergie, vous savez, c'est une solution qu'on apporte aux ménages les plus en difficulté pour qu'ils puissent se chauffer décemment dans leur appartement. On pourrait imaginer, bien sûr, à condition de revenu, un chèque alimentation qui leur permet d'accéder à ces fruits et les légumes.
Oui, vous allez même plus loin, et vous l'évoquiez hein, d'ailleurs en constatant qu'il existe en France un droit au logement. Vous vous dites pourquoi pas un droit à pouvoir consommer suffisamment de fruits et légumes.
Voilà. Il y a, comme vous le dites, il y a le droit au logement avec les allocations logement, il y a le droit à l'énergie avec le chèque énergie qui existe déjà pour les familles les plus en difficulté. Eh ben, l'alimentation, ça fait partie intégrante du droit que chacun puisse accéder dans notre société à une alimentation de qualité, à une alimentation saine, parce qu'on connaît tout l'impact de l'alimentation sur la santé de chacun.
Bien
donc,
sûr.
À l'instar du logement, de l'énergie, eh ben, l'alimentation, pareil, on pourrait aider les familles les plus en difficulté pour accéder à cette alimentation de qualité.
Ouais, tout cela nous renvoie aux recommandations du PNNS, le Plan National Nutrition Santé. Hein, au moins 5 fruits et légumes par jour. On a tous entendu ce message. Dominique Marmier, ce n'est pas à la portée de tous les budgets aujourd'hui ? Toujours pas ?
Il y a deux choses déjà, parce qu'il y a le budget, c'est une chose, mais il y a la sensibilisation. Effectivement, c'est un message qui existe depuis de nombreuses années, mais qui malheureusement n'arrive pas dans chaque foyer. Donc là aussi, il nous demande, en plus du chèque énergie, un grand plan de communication, mais très ambitieux, auprès des pouvoirs publics, pour vraiment sensibiliser la population sur les bienfaits de consommer des fruits et des légumes. Donc il y a le côté budgétaire, qui est conséquent, qui a un vrai impact sur le pouvoir d'achat, mais il y a également le côté sensibilisation, et puis l'intérêt porté sur la consommation des fruits et des légumes, qui, je le répète, ont vraiment un impact sur la santé de chacun d'entre nous.
Ouais, c'est-à-dire, cette campagne 5 fruits et légumes par jour n'a pas eu l'écho qu'elle méritait, c'est ce que vous dites ?
Voilà, pas suffisamment. C'est vrai qu'on en parle depuis de nombreuses années, mais malheureusement, le message a du mal à passer auprès de toutes les familles. Donc là, je pense qu'il faut passer la vitesse supérieure, c'est ce que nous pensons. Il faut vraiment un plan très ambitieux de communication et d'information parce que c'est de la prévention, donc il s'agit avant tout de la prévention. Et puis après, bien sûr, le deuxième échelon, je dirais, c'est le chèque pour aider financièrement les familles les plus en difficulté.
Donc, si je vous suis bien, le budget n'est pas la seule raison pour laquelle des familles modestes ou précaires se privent trop souvent de fruits et de légumes. Il y a aussi une question d'éducation au goût, d'habitude alimentaire à changer ?
Voilà, comme vous le dites, il y a une question d'éducation. Par exemple, on le voit, nous, avec notre observatoire des prix. Hein, quand on achète des prix qui sont en pleine production parce que c'est la saison, donc il faut apprendre la saisonnalité des fruits, la saisonnalité des légumes, parce qu'on sait bien que consommer des fruits et des légumes, quand on est au pic de production, eh ben, les prix sont plutôt à la baisse. Donc il y a tout un côté éducatif qu'il faut faire destiné auprès des familles pour sensibiliser des familles qui sont malheureusement un petit peu éloigné de ces choses. On le voit avec la crise Covid, avec la crise sanitaire, il y a un retour sur le terrain, il y a un besoin de proximité, il y a un besoin de s'approprier de nouveau donc, cette production de fruits et des légumes. Donc là, il faut en profiter pour vraiment lancer un grand plan de communication auprès de ce public.
Alors, il y a quand même quelque chose qui m'a surpris dans votre étude, dans ces conclusions. Vous relevez donc une baisse des prix des fruits et légumes en moyenne de 8%. C'est bien cela entre l'été dernier et cet été.
Oui,
c'est pas toujours ce qu'on constate sur les marchés. Et c'est d'autant plus paradoxal, surprenant, après les gelées tardives qui ont perturbé les cultures, particulièrement chez les arboriculteurs.
Voilà, bah c'est vrai qu'on parle de moyenne, donc les moyennes, c'est fait pour cacher des disparités,
voilà.
Hein, comme on le dit. Hein, donc c'est vrai que dans notre panier, on a retiré la cerise hein, quand même, parce que la cerise, c'est un produit qui est vraiment très difficile à faire arriver à maturité, puis notamment qui était très sensible au coup de froid, et puis qui a été vraiment très touché. Hein, donc y a, le prix a explosé parce que la production a été divisée par deux. Donc c'est vrai que la cerise ne fait pas partie du panel. On voit par exemple que l'abricot, qui est également très sensible au coup de froid, a connu une augmentation de 18% d'augmentation, donc en plus. Mais hormis la cerise et l'abricot que je viens de citer, quand même, l'ensemble des autres produits ont connu une baisse parce que finalement, une production qui a été là quand même, avec des pays aussi comme l'Espagne, comme l'Italie, qui ont été moins touchés par le coup de froid, ont de nouveau importé des fruits en matière en nombre suffisant. Et puis, il faut aussi dire que l'été que nous connaissons, c'est un été maussade, pluvieux, plutôt frais, qui incite donc avec une baisse de consommation, donc une baisse de consommation avec une offre qui est quand même présente, eh bien ça fait que les prix sont plutôt orientés à la baisse.
Et on ne parle même pas du bio, qui lui reste hors de portée de bien des budgets, hein, Dominique Marmier.
Ben le bio, pareil, oui, il est toujours depuis l'observatoire des prix que nous avons, toujours quasiment le double des prix conventionnels, à peu près, hein, en moyenne, toujours pareil. Mais cette année, il est toujours orienté à la baisse, comme les fruits conventionnels. On note en fruits bio, par exemple, on est sur du moins 5% également, comme en fruits conventionnels. Donc on s'aperçoit que le bio est sur la même tendance, orienté à la baisse également cette année.
Il n'y a pas des abus, parfois, en termes de prix, franchement, en termes de marge, sous prétexte de vendre du bio, on gonfle les prix?
Bah là, peut-être, parce que comme vous le dites, hein, on affiche bio un petit peu partout maintenant, plutôt en tort et en travers, effectivement. Donc après, on demande, donc là aussi, c'est un point de vigilance hein, qu'on adresse auprès du consommateur, de bien faire attention, notamment à l'origine du produit. Parce qu'on sait que les produits, notamment français ou bien au moins européens, sont soumis à des règles strictes, avec des cahiers des charges très précis qui sont respectés. Par contre, quand on est sur des produits qui sont hors Union européenne, effectivement, là, c'est plutôt, c'est plus light, que je dirais, et qui sont soumis certainement à moins de contrôle. Donc vraiment, on appelle le consommateur à être très vigilant sur l'origine des produits.
Ouais. Au-delà des fruits et légumes, Dominique Marmier, bien manger coûte-t-il cher?
Je vous l'ai dit tout à l'heure, bien manger peut coûter cher.
Pas seulement pour les fruits et légumes.
Mais si on est très attentif sur l'origine, sur la saisonnalité, en tenant compte du pic de production, en choisissant ses légumes, en choisissant ses fruits, on peut arriver à manger de qualité correctement en ayant une incidence sur le portefeuille plus ou moins importante, suivant que justement on sait choisir ses produits. Mais voilà, c'est toujours pareil. On demande donc aux consommateurs d'être vigilants, de prendre un petit peu de temps. Malheureusement, il faut prendre son temps, bien lire les étiquettes, être très vigilant justement sur l'origine des produits.
Merci Dominique Marnier, président de l'association Famille Rurale. Vous réclamez donc la création d'un chèque fruits et légumes pour aider les familles les plus modestes à consommer, justement à manger plus équilibré.
Europe Midi, Alexandre Lemaire.
Bienvenue dans Europe Midi, si vous nous rejoignez dans un instant, le club Tokyo avec Lionel Rousseau. A tout de suite.